difficultés sur ce que nous avons vu hier. Des propositions, des commentaires? Alors je me permets d'avancer. C'est probablement ce que vous souhaitez. Nous en étions restés hier à la fin du point 3, vous vous souvenez. Et nous voulions aborder vraiment le chapitre 17 comme une sorte de transition, puisque nous voyons comment l'homme se dispose à accueillir le don de Dieu dans la contemplation, cette union qui est donnée par Dieu lui-même, et à laquelle il est élevé et hissé par Dieu lui-même. Et pour laquelle, quand même, il doit se disposer. Nous avons donc disposé les pièces du jeu d'échecs, en particulier la dame en finale, la reine, la dame, fait mal au roi divin qui l'attire et qui est personnifié, parce que les vertus sont d'abord personnalisées pour Thérèse, et l'humilité est personnalisée dans le Christ, et elle est personnalisée par la Vierge. Voilà. Donc, nous avons vu ça, cette disposition. Et nous allons voir maintenant un point d'hésitation de Thérèse, de réflexion de Thérèse. Nous nous disposons, mais cela ne nous donne aucun droit. Nous nous disposons, mais cela ne nous donne aucun droit. Nous devons nous disposer, mais cela ne nous donne aucun droit. Ce n'est pas tout à fait la logique des droits de l'homme. D'accord ? Bon. Et c'est la question que pose Thérèse au chapitre 17 du chemin de perfection de Valladolid, le second donc, avec une question qui est posée de manière un petit peu compliquée, complexe. Comment celui qui est véritablement humble pourra-t-il penser qu'il est aussi bon que ceux qui sont devenus contemplatifs ? 17.1. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'elle va vouloir dire? Eh bien, il y a déjà une réponse dans la suite. Dieu, qui aurait ça? Gabriel, vous l'avez, 17.1 ou Arnaud? 17.1, vous pouvez lire ça?
Il admettra, oui, que Dieu conduira dans sa beauté, bonté et sa miséricorde.
Oui.
Mais je le lui conseille qu'il se mette toujours à la dernière place, comme le Seigneur nous l'a enseigné par ses paroles et ses actes. Qu'il soit prêt au cas où Dieu voudrait le conduire dans cette voie. Sinon, voici en quoi l'humilité est utile. Cette âme trouvera sa joie à servir les servantes du Seigneur et à le louer. Car alors qu'elle mériterait d'être la servante du démon en enfer, Sa Majesté l'a introduite en leur compagnie.
Bien. Alors on a un aspect de l'humilité en référence à la contemplation qui est placé aussi en référence à autrui, par rapport à autrui. Et alors, on va toucher du doigt une question qui paraît un petit peu étonnante pour nous, mais qui, dans une vie de communauté et dans le projet, l'idéal qu'a proposé Thérèse, a une assez grande importance. Alors, nous sommes entrés au monastère de Saint-Joseph, virtuel, hein ? Nous sommes entrés au monastère de Saint-Joseph, nous avons adopté le projet... l'idéal de vie proposé par la mère Thérèse, très bien. Et nous savons que la prière efficace pour l'Église, c'est la prière contemplative. Donc, nous pensons que puisque nous nous disposons par les vertus dont elle a parlé, eh bien, nous allons être forcément contemplatifs. Eh bien, non. Nous ne serons pas forcément contemplatifs. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? C'est pas facile, hein. En tout cas, elle nous fait comprendre une première chose. c'est que Dieu peut, dans sa bonté et sa miséricorde, nous rendre tels, contemplatifs, faire de nous des contemplatifs. C'est donc un don, c'est donc gratuit. C'est un effet de la miséricorde de Dieu. Mais notre disposition, elle est nous mettre à la dernière place. Il y a derrière ce texte de Thérèse, l'évangile, bon, selon saint Luc, la parabole de ceux qui choisissent leur place, qui choisissent évidemment la première place. C'est Luc 14, il y a ça derrière. Luc 14. J'espère ne pas me tromper. Et puis, ce qu'elle va évoquer aussi, c'est l'exemple du Seigneur qui est serviteur au milieu de tous. Donc, c'est Luc 22, 27. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Bon. Alors, donc, il faut savoir reconnaître la gratuité du don de Dieu sur lequel l'homme ne saurait avoir de prise, d'appréhension. Le respect de la transcendance de la miséricorde de Dieu qui est libre de ses dons, la grâce reste la grâce. L'homme ne peut pas la conquérir, il ne peut pas empiéter sur la grâce, et la disposition qu'il offre, elle est nécessaire, elle est indispensable, mais elle ne constitue pas un droit de l'homme. Et de toute façon, elle ne sera jamais à la hauteur du don de Dieu. Ça, d'accord. Ça va ? Bon, c'est un premier point. Et la chose que sainte Thérèse veut inculquer aux sœurs, eh ben, c'est pas la peine d'être amère si le Seigneur n'accorde pas la grâce désirée de la contemplation. Et elle invite à servir le prochain dans la gratitude et la conscience de son indignité personnelle. En effet, Dieu, à Saint-Joseph d'Avila, ne conduit pas tout le monde par le même chemin. C'est pas parce que vous êtes toutes entrées à Saint-Joseph d'Avila que vous allez toutes être contemplatives du jour au lendemain. C'est ça qu'elle veut dire. Ce n'est pas parce que vous vous appliquez à l'oraison que vous serez toutes forcément contemplatives. Et d'un seul coup, parfois, le Seigneur vient très tard et il éprouve notre vigilance. 17, 2, page 663. Et de toute façon, ce qui importe, ce n'est pas d'être contemplatif, de faire oraison, d'être contemplatif. Ce qui importe, c'est la sainteté. Et alors, comme on est dans cette dichotomie entre Marthe et Marie, bien traditionnelle, si vous voulez, alors elle dit, Marthe, dont on dit qu'elle n'était pas contemplative, c'est encore l'évangile de Luc, était une sainte, puisqu'elle mérita de recevoir le Seigneur chez elle, de le servir, de lui donner à manger et de prendre le repas à sa table. Rappelez-vous qu'il faut bien quelqu'un pour lui préparer le repas. Soyez heureuse de servir avec Marthe, conclut Thérèse. 17, 6. Ça va ? Donc c'est vite résolu. La page 665. Soyez heureux, soyez sans amertume. Ne soyez pas jalouse. C'est la question aussi de la jalousie, des envies. Bon. Elle termine en disant, 17.6 encore, « Contemplation, raison mentale ou vocale, soin des malades, service de la maison, travaux les plus humbles, en tout il s'agit de servir l'hôte qui vient au milieu de nous pour manger et se récréer. Que nous importe une chose ou l'autre ?» Donc, elle va signifier par là qu'au fond, la disposition que nous offrons à Dieu doit devenir une disponibilité à tous les vouloirs de Dieu. C'est une drôle d'humilité que de prétendre choisir sa place. 17, 7. Cela revient au Seigneur. Laissons le faire. Il est sage et puissant. Il sait ce qui nous convient et ce qui lui convient. Très bon, ça. 17, 7, page 666. Alors, on serait tenté à Saint-Joseph parce qu'on a l'impression que la contemplation, c'est une prière savoureuse, agréable, paisible. Donc on désire ça, ça se passe bien. On désire ça, on aspire à ça. Mais pour Thérèse, il ne s'agit pas tant de choisir cela que de consentir à être choisi par Dieu. et d'avoir la place qu'il veut qu'on ait et remplir la mission qu'il veut nous donner. Point. Vous voyez, c'est ça. Disponibilité joyeuse, reconnaissante au service du Seigneur et jusqu'à une acceptation paisible de notre place, de notre vocation personnelle dans l'Église. Et voilà comment Sainte Thérèse dit, 17.6. Considérez, je lis parce que j'ai coupé, donc ça va plus vite. Considérez que la véritable humilité consiste beaucoup à être très prompt, prêt, disponible, à nous satisfaire de ce que le Seigneur veut faire de nous et à nous trouver toujours indignes d'être appelés ses serviteurs. Voilà. Un bon résumé, une bonne synthèse. Donc l'humilité, pour Thérèse, c'est une force d'acceptation. C'est la valeur la plus sûre sur le chemin de la perfection. En revanche, la contemplation, ou plutôt les effets sensibles de la contemplation qui peuvent faire envie, les goûts, les saveurs, les larmes, les visions, les ravissements, dit-elle, n'ont pas toujours une origine divine. Le démon peut y mêler quelques contrefaçons ou illusions. Toutes ces dévotions, ne vous mettez pas en peine de les rechercher. C'est une chose incertaine. Incertaine. 18.9. Page 671. Et elle insiste beaucoup dans ce chapitre 18. J'avais un certain nombre d'affirmations, là je l'ai dit aussi pour aller plus vite. Dans l'humilité, la mortification, le détachement et les autres vertus, il y a toujours plus de sécurité et il n'y a rien à craindre. Voilà, c'est encore dans 17.4. Page 664. Ce sont ces vertus-là que je veux que vous ayez, mes filles, que vous les recherchiez et en ayez une sainte envie. 18.9, encore. Ah oui, je m'étais trompé avant, qu'est-ce que j'ai fait mon coup, moi ? Oui, c'est toujours 18.9, on est bien ça. Bon. Et si vous voulez savoir si vous avez progressé, voyez si vous vous tenez pour la plus misérable de toutes. Et qu'à vos œuvres, on voit bien que vous le comprenez ainsi, pour le profit et le bien des autres, et non pas comme celle qui a le plus de saveur à l'oraison, de ravissement, de vision ou de faveur. 18.7, page 670. Donc, c'est clair, hein ? Voilà la disposition qui devient disponibilité. C'est clair ? Donc là, nous sommes arrivés, vous voyez, elle ressaisit ses vertus, tout ce processus vertueux expliqué auparavant, et puis elle en fait cette disponibilité à la grâce de Dieu, au vouloir de Dieu, au projet de Dieu. C'est bon ? Donc, je crois que c'est assez parlant de voir que cette première partie, ce premier bloc, chapitre 4, à 18, eh bien, est articulée de cette façon-là. Et l'importance qu'elle lui donne par rapport à ce que l'on peut percevoir, appréhender, penser au sujet d'une soi-disant contemplation. Ça va ? Bon. C'est assez clair et vous voyez que dans l'axe de la problématique que je vous ai situé hier, c'est assez intéressant. Cette cohérence vertueuse qu'elle propose. Avec la voie de l'intériorité. Clair ? Bon. Alors, maintenant, entrons dans le sujet de Thérèse. Des choses sur l'oraison. Chapitre 19 à 29. Quatrième partie. Vous suivez bien ?
Bon.
Oui, je vous ai mis ça sur le plan, si vous avez votre plan en main. Chapitre 19 à 29, on est d'accord ? Alors, je vous ai mis sur le plan ce qui veut être vraiment l'objectif d'un plan, c'est-à-dire essayer de démêler dans cette forêt un peu amazonique de ces chapitres. Il faut bien reconnaître, ça va, ça vient, il y a des méandres, ça recommence, ça reprend. Quand vous lisez les titres, déjà, vous vous dites, bon, ça y est, on est reparti, puis non, puis on recommence, puis on revient, puis voilà. Donc, au moins des comment dire, des lignes de force. Voilà ce que j'ai essayé de faire. Première chose, le projet de dire des choses sur l'oraison se réalise. Donc nous allons voir cela. Donc nous allons nous promener dans ce chapitre. Ensuite, comment s'enclenche le commentaire de la prière du Seigneur? Qu'est-ce que ça vient faire? Comment elle l'articule? Et enfin, un troisième axe, une troisième ligne de force de ces chapitres, une apologie, c'est-à-dire une défense de l'oraison, une définition, son dynamisme vital. Voilà, on va s'aventurer un petit peu dans ce dédale. Je reconnais que c'est certainement la partie la plus complexe, la plus compliquée du chemin de la perfection. Alors on va essayer d'avancer autant qu'on peut, d'en tirer l'essentiel. Et que vous ne soyez pas complètement perdus. Oui ? Bon. Nous abordons donc ce petit catéchisme de la prière que sera le chemin de la perfection, cette théologie de la prière que Thérèse va proposer. Elle nous a parlé dans le prologue de façon très anodine de choses d'oraison. Nous nous souvenons de ce projet modeste. Et nous allons voir dans ces pages que c'est modeste et en même temps il y a une très grande force encore, comme nous l'avions saisi dans les premiers chapitres. Alors, qu'est-ce qu'elle veut faire et pourquoi le fait-elle? À qui s'adresse-t-elle? En parlant de ce que nous appelons en français l'oraison, en espagnol la prière mentale, d'accord? Alors, nous l'avons au chapitre 19, les paragraphes 1 et 2. Là, nous pourrions lire tel quel.
Depuis que j'ai écrit ces dernières lignes, il s'est écoulé tant de jours sans que j'aie eu le loisir de me remettre à écrire. Pour que savoir où j'en suis, il faudrait me revivre.
Sous-entendu, je ne le ferai pas. Je ne peux pas le faire, je ne le ferai pas. Bon, ça va? Bien.
Pour ne pas perdre de temps, je vais dire sans ordre ce qui se présentera à mon esprit.
On n'a pas besoin de lui demander, elle le fait. Donc c'est sans ordre. Après, c'était tout à fait les termes, sin concierto, en espagnol, du prologue. Donc elle se tient tout à fait à ce qu'elle a dit dans le prologue. Elle suit sa logique, c'est la logique thérésienne, c'est clair. Bon, mais pensez qu'elle ne fait pas œuvre d'écrivain, ce n'est pas un texte qui est commandé par un éditeur, donc elle fait ce qu'elle peut. Voilà. Mais c'est ça qui est intéressant dans le génie thérésien, c'est que derrière des descriptions extrêmement minutieuses, détaillées et embrouillées, on arrive à... Il y a vraiment des touches de génie, quoi, spirituel.
Il existe, à l'usage des esprits ordonnés, des âmes exercées et capables de se tenir en face d'elles-mêmes, un grand nombre de livres excellents, œuvres de personnes du plus grand mérite. Cela étant, ce serait vous tromper, mes filles, que de faire quelque cas de ce que je pourrais vous dire sur l'oraison. Vous trouverez en effet dans ces ouvrages tous les mystères de la vie et de la passion de notre Seigneur distribués pour chaque jour de la semaine, des méditations sur le jugement et l'enfer, sur notre néant, sur les grandes obligations que nous avons envers Dieu, tout cela avec des instructions parfaites et l'indication de l'ordre à respecter au commencement et à la fin de l'oraison. À ceux qui peuvent suivre ce mode d'oraison et qui en ont l'habitude, je n'ai rien à dire. Par un si bon chemin, le Seigneur les conduira au port du salut et la fin répondra nécessairement à un début si excellent. Tous ceux qui pourront marcher par cette voie y trouveront paix et sécurité, car l'esprit, une fois fixé, en goûte un vrai repos. Mais il est un autre point que je voudrais traiter et sur lequel je voudrais donner quelques avis si le Seigneur veut bien m'en faire la grâce. S'il me la refuse, vous saurez du moins que beaucoup d'âmes endurent la peine dont je vais parler. Si vous êtes de ce nombre, vous ne vous désolerez pas.
Bien. Relevons que Sainte Thérèse, dans ce chemin de la perfection, ne va pas offrir un traité de méditation, de prière ordonnée, discursive. Il existe beaucoup de livres à ce sujet. De fait, il y a une floraison à son époque. ces livres qui aident les personnes à fixer leur esprit de manière structurée, progressive, ordonnée, en les concentrant en particulier sur les mystères de la vie et de la passion du Christ, mais aussi sur les grandes questions du jugement et de l'enfer, et notre néant. Donc pour elle, la question de la méditation ne se pose pas. Et les gens qui veulent méditer n'ont pas à recourir à Sainte Thérèse. Il y a tout ce qu'il faut ailleurs. C'est clair ? C'est pas qu'elle méprise cela, c'est qu'elle en est incapable. Voilà ce qu'elle va nous dire. Elle a été incapable de méditer et c'est ce qu'elle va nous décrire maintenant. Elle veut s'adresser aux personnes qui ne parviennent pas à méditer, à conceptualiser leur prière, à avoir une prière très ordonnée. Alors, je ne peux pas dire style de l'école française, parce que ça vient après Thérèse, donc je ne peux pas dire ça. Mais quand si vous écoutez des sulpiciens, par exemple, ou des gens qui ont été formés dans les séminaires de Saint-Sulpice, eh bien, vous verrez, peut-être pas les plus récents, mais en tout cas, à une certaine époque, le père Marie-Jeanne en témoigne, au séminaire de Rodez, où il y avait de très grands sulpiciens. Et moi, j'avais écouté non seulement de séminaristes et de prêtres, mais aussi des filles de la charité, qui disent qu'elles faisaient leur séminaire, à Paris, leur noviciat. Donc, c'était une prière extrêmement organisée. On choisit un sujet. On s'applique à ce sujet pendant la prière, mais on déroule des éléments, on applique son intelligence, on raisonne, on organise, on progresse, l'intelligence raisonne, progresse, prend des résolutions, etc., des décisions, etc. Une fille de la charité que j'avais rencontrée en Suisse m'a dit, à l'oraison ça commence. Non, on faisait oraison, on nous disait comment faire oraison, et après, c'était pas des religieuses, donc il fallait pas dire la maîtresse des novices, mais enfin c'était tout comme. Il fallait toujours commencer, on rendait toujours compte de son oraison en disant « Après un retour sur moi-même, je me suis aperçu que, premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, etc. » Et dire comment ça s'était passé. Voilà. C'était extrêmement structuré, extrêmement ordonné. Ça a toute sa valeur, c'est clair. Mais Sainte Thérèse s'adresse à des gens qui ne sont pas capables de cette ordonnance. Et donc, qui sont affrontés à une prière beaucoup plus pauvre. L'oraison thérésienne, c'est pour les gens, on va dire, pauvres d'esprit. Ça va ? Eh oui. Eh oui. Il faut partir avec cette conviction, n'est-ce pas ? Bien, alors lisons ça. Nous avons là une description de gens qu'elle a connus, mais aussi, j'allais dire, d'elle-même, d'abord.
Il y a des âmes et des intelligences aussi tumultueuses qu'un cheval emballé. Nul ne parvient à les maîtriser. Elles vont ici et là, toujours agitées. C'est leur nature, ou Dieu, qui le permet. Je les plains beaucoup. Elles sont pour moi comme des personnes qui ont grand soif et voient l'eau de très loin. Mais quand elles veulent l'atteindre, elles trouvent quelqu'un pour leur barrer la route au commencement, au milieu et à la fin. Lorsqu'à grand-peine, une très dure peine, elles ont vaincu les premiers ennemis, il leur arrive, vaincus par les seconds, de préférer mourir de soif plutôt que de boire une eau qui leur coûterait si cher. Leur force était à bout, elles ont manqué de courage. Celles qui ont eu celui de vaincre les secondes ennemies se trouvent sans force devant le troisième, alors qu'elles sont peut-être à moins de deux pas de la source d'eau vive, dont le Seigneur a dit à la Samaritaine que celui qui en boira n'aura plus jamais soif.
Donc Jean 4, 13, évangile paradigmatique, essentiel pour Thérèse, puisque dans la maison de son père, il y avait un tableau de la Renaissance, très beau d'ailleurs, conservé, très grand, qui représentait le Seigneur au puits de Sychar, et avec la Samaritaine, lui demandant cette eau promise, et qui jaillirait pour la vie éternelle. Donc elle a vécu, elle a grandi avec cet évangile. C'est l'évangile clé pour Thérèse. Et vous voyez aussi, nous trouvons dans ce texte ce symbolisme de la source. Le chemin de la perfection fonctionne avec le symbole du chemin, et c'est le chemin qui conduit à une source. source de la vie de Dieu, source de la grâce de Dieu, source mystérieuse qui coule dans la prière contemplative.
Que de raison et de vérité dans ces paroles dites de la bouche de la vérité elle-même. Il est vrai que l'âme n'aura jamais la soif des choses de cette vie, mais elle grandit pour les choses de l'autre plus que la soif naturelle ne nous permet de l'imaginer. Quelle soif on a d'éprouver cette soif ? L'âme comprend son grand prix, et pour pénible et épuisante que soit cette soif, elle porte en soi la satisfaction qui l'apaise, de sorte que cette soif n'étouffe que les choses terrestres. Elle rassasie si bien que lorsque Dieu la satisfait, l'une des plus grandes faveurs qu'il puisse accorder à l'âme est de la laisser assoiffée, d'une soif qui ne fait que grandir chaque fois qu'elle boit de cette eau.
Bien, alors vous voyez, on est passé du cheval emballé à la source d'eau vive et à la soif. On ne sait plus où on en était. Et pendant la fin du chapitre, là, elle va parler des propriétés de l'eau. C'est assez rigolo, les conceptions qu'elle a, mais c'est tout à fait intéressant. Et donc, ça y est, c'est parti. Donc la question qui l'a amené à tout ça, c'est le fait qu'on ne puisse pas maîtriser sa prière, qu'on ne puisse pas maîtriser son intelligence qui résonne, et donc qu'on ne puisse pas méditer. La méditation, c'est une prière maîtrisée par l'homme. Ça, Jean-Jacques Pape fera très bien comprendre dans les signes de la contemplation. Passer d'une prière maîtrisée par l'homme à une prière conduite par l'Esprit de Dieu, c'est autre chose. C'est ça le passage à faire. Alors donc, voilà. C'est intéressant de voir que pour elle, elle s'adresse, les destinataires sont donc des gens qui ne peuvent pas maîtriser la prière, qui en sont incapables, donc qui vont être affrontés à une prière beaucoup plus pauvre. Et ensuite, ce sont des gens qui sont assoiffés. Et la récompense de la prière, elle le fait entendre, c'est toujours une soif plus grande. Donc on est assoiffé, il y a donc une source et on ne peut pas y parvenir. Vous voyez comment elle parle de... C'est très complexe chez elle parce qu'il y a des réflexions. Et puis après, elle enfourche des symboles. Alors évidemment, ça rend les choses très complexes. Voilà. Alors on laisse ce chapitre 19. Et nous allons aborder le chapitre 20. Vous voyez, ce sont plutôt des touches. Je voudrais quand même vous faire... Ah oui, non, je l'ai mis, c'est bien, c'est ça. Parfait. Alors, une question, évidemment, et elle s'est posée déjà au chapitre 17-18, avec cette histoire de toutes les sœurs voudraient des contemplatifs, mais elles ne le sont pas forcément toutes au même moment et dès le commencement, vous voyez ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a un drôle de mystère là-dedans. Alors, est-ce que nous sommes tous appelés à l'union contemplative avec Dieu? Alors, c'est le chapitre 20, paragraphes 1 et 2. On peut lire ça aussi.
Il semble qu'il y ait contradiction entre ce que je viens de dire au chapitre précédent et ce que j'avais dit plus haut. Quand, voulant consoler les âmes qui ne parviennent pas à la contemplation, je montrais qu'il y a divers chemins pour aller à Dieu.
Pardonnez-moi, j'ai omis, je pense qu'il faudrait lire le 19-15, c'est-à-dire le dernier paragraphe.
Songez que le Seigneur invite tout le monde. Il est la vérité même, donc la chose est hors de doute. Si le fait saint n'était pas général, il ne nous appellerait pas tous, ou bien, en nous appelant, il ne dirait pas « je vous donnerai à boire ». Il dirait, venez tous, vous n'y perdrez rien, et je donnerai à boire à qui je voudrais bien, je voudrais bon.
Alors vous avez derrière, donc venez à moi vous tous qui ployez, c'est Matthieu 11, 28. Vous avez ensuite Jean 7, 37, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Oui, pardon.
Mais comme il dit sans restriction, venez tous, je regarde comme certain que tous ceux qui ne resteront pas en chemin recevront cette eau vive. Daigne celui qui nous la promet nous donner sa grâce pour la chercher comme il faut parce qu'il est le Seigneur.
Donc, il appelle tout le monde. Ça va ? Première affirmation. Et en affirmant cela, elle semble contredire ce qu'elle a décrit pour les sœurs de Saint-Joseph. Les unes sont Marthe, les autres sont Marie. Il ne faut pas se poser de problème, il ne faut pas s'envier mutuellement. ne faut pas avoir de jalousie, le Seigneur peut venir très tard, l'important c'est d'être sainte, etc., etc. Donc on a l'impression qu'elle se contredit un peu, enfin, on peut donner l'impression de se contredire s'il appelle tout le monde. Alors pourquoi il ne donne pas la contemplation à tout le monde? Vous voyez le truc? Ouais. Bon. Alors, on peut reprendre 21. Merci beaucoup, c'était fort.
Il semble qu'il y ait contradiction entre ce que je viens de dire au chapitre précédent et ce que j'avais dit plus haut quand, en voulant consoler les âmes qui ne parviennent pas à la contemplation, je montrais qu'il y a divers chemins pour aller à Dieu, comme il y a différentes demeures dans le ciel. Et pourtant, je maintiens ce que j'ai dit. Notre Seigneur, en effet, connaissant notre faiblesse, a tout ordonné d'une manière digne de lui. Mais il n'a pas dit que les uns viennent par tel chemin et les autres par tel autre. Non, dans sa grande miséricorde, il n'empêche personne de se diriger vers cette fontaine de vie pour s'y désaltérer. Qu'il en soit à jamais béni, avec combien de raisons il aurait pu m'en écarter.
Ah, expérience de Thérèse.
Mais puisqu'il ne m'a pas dit de me retirer quand je m'en approchais, qu'il n'a pas commandé qu'on me jette dans l'abîme, c'est évidemment qu'il n'éloigne personne. Que dis-je ? C'est publiquement et à grand cri qu'il nous appelle. Dans sa bonté, néanmoins, il ne nous fait pas violence.
Voilà, voilà la clé. D'accord ? Donc, c'est une clé qu'elle n'a pas donnée au chapitre 17, parce qu'elle nous donnait, le 18, elle donnait le point de vue de Dieu, si vous voulez, du projet de Dieu, et de la vocation de chacun et du choix de Dieu. Maintenant, elle va donner le point de vue de notre réponse. Et donc, de ses incertitudes, de ses fragilités, de ses faiblesses, et de sa diversité. Les uns répondent, d'autres ne répondent pas. Eh oui. Dieu qui t'a sauvé sans toi, qui t'a créé sans toi, ne te sauvera pas sans toi. Alors, il y a ça là derrière. Il ne nous force pas.
Mais afin que personne ne se retire sans consolation et ne meure de soif, il abreuve de plusieurs manières ceux qui veulent bien le suivre. D'une source si abondante naissent divers ruisseaux, les uns grands, les autres moindres. Il y a même des plaques d'eau pour les enfants, c'est-à-dire pour ceux qui commencent. Cela leur suffit, la vue d'une grande quantité d'eau ne ferait que les effrayer. Ainsi, mes sœurs, ne craignez pas de mourir de soif dans cette voie. Jamais l'eau des consolations ne fait défaut au point qu'on ne puisse plus tenir. Cela étant, suivez mon conseil et ne restez pas en chemin. Mais combattez en personne le cœur, prête à mourir à la tâche. Après tout, ce n'est que pour combattre que vous êtes venu ici. Si vous avancez toujours, résolu à mourir plutôt que de renoncer à atteindre le but, le Seigneur pourra bien vous laisser endurer quelque soif en cette vie. Mais dans la vie qui ne finira pas, il vous abreuvera de cette eau avec pleine abondance, et sans que vous ayez à craindre de la voir vous manquer. Plaise au Seigneur que de notre côté, nous ne lui manquerons jamais. Amen.
Bien. Alors on a encore plusieurs éléments de réponse dans ce paragraphe un peu embrouillé aussi. Bon, d'une part, le Seigneur ne force personne, il ne fait pas violence, il appelle tout le monde, mais il ne force personne. C'est donc laissé à notre libre conseil et décision, à notre liberté, c'est clair. D'autre part, ses dons sont divers. Les dons de l'Esprit sont divers. C'est toujours le même Seigneur. Et ils sont adaptés aussi aux possibilités, à la capacité, aux étapes de la vie. Pour les uns, ce sont des ruisseaux, pour d'autres, de grands fleuves, pour certains qui sont des enfants, c'est ainsi, pour d'autres qui sont plus adultes, c'est autrement. Donc il y a une diversité des dons de Dieu adaptés à la diversité des personnes qui en sont capables. Troisième élément de réponse, vous voyez, elle donne plusieurs éléments comme ça, c'est pas quelque chose comme ça, une réponse en bloc, hein. C'est plutôt par touche. Qui va avec le fait qu'il ne force pas notre liberté, c'est être déterminé, ne pas s'arrêter en chemin. Plutôt mourir que de ne pas arriver au terme. Ça, c'est thérésien. Ou mourir ou souffrir. Voilà. Ou mourir ou pas d'effet. Bon. Car il dit... Elle dit, en effet, le Seigneur ne nous manquera pas, plaise au Seigneur que nous ne lui manquions pas nous-mêmes. Ah oui, Manquer à Dieu, pour Thérèse, c'est la définition du péché, comme pour Saint Jean de la Croix. Qu'est-ce que le péché? C'est manquer à Dieu, tout simplement. Plaise au Seigneur que nous ne lui manquions pas, nous. Donc, vous voyez, il y a cette question de notre fragilité, de notre misère, qui est aussi une réponse, et donc de notre détermination à continuer le chemin, et donc de notre persévérance. Ça va? Bien. Il y a encore une autre réponse que vous avez vue, je ne sais pas si elle nous satisferait totalement, enfin, elle revient à ce qu'elle a dit au chapitre 17. Si vous êtes déterminé à ne pas abandonner le chemin et plutôt à mourir que de ne pas parvenir au terme, même si le Seigneur vous laisse avec une petite soif en cette vie, sachez, c'est minime, en comparaison de l'eau abondante qui vous sera donnée dans la gloire. Et donc, c'est l'eschatologie, l'horizon de l'eschatologie qu'elle donne. Là, il n'y a pas de doute, c'est la gloire, c'est la surabondance. Ça va ? Bien. Vous voyez donc, c'est un ensemble de réponses, un faisceau de réponses qu'elle donne à cette question. Le Seigneur appelle tout le monde. Le Seigneur appelle tout le monde. Alors, nous avons un autre élément. Alors, c'est un texte que j'aime bien, mais il est dans un fouillis, encore une fois. C'est 21.6. Vous arriveriez à le retrouver.
Oh, mes filles, ces dangers sont incomparablement plus nombreux.
Mais alors, si on pouvait laisser tomber les dangers, tout ça...
Vous voyez les dangers sans une...
Oui, vous voyez, sans une goutte de cette eau, voilà. À propos de l'eau, elle revient à l'eau. Voilà. Bon, après tout, on peut le lire, c'est pas grave, oui. Disons-le.
Oh, mes filles,
oui.
Ces dangers sont incomparablement plus nombreux. Mais ils ne s'en rendent compte que lorsqu'ils voient de leurs yeux le vrai péril, là où personne ne peut leur tendre la main. Privés d'eau, ils ne peuvent en boire peu ou prou. Il n'y a pas une flaque, pas un ruisseau.
Bon. Ça, on va y revenir après, sur cette question-là. C'est la question des dangers sur le chemin de l'oraison. Et que c'est encore plus dangereux de ne pas faire oraison. Voilà, c'est la thèse qu'elle dit. On nous dit qu'il y a beaucoup de dangers sur le chemin de l'oraison, pour les femmes, etc. C'est encore plus dangereux de ne pas faire oraison. Voilà. C'est ça sa thèse, mais on va y revenir. Alors maintenant, ce qui m'intéresse, c'est le paragraphe suivant, enfin, l'aparté suivant.
Voyez-les donc, sans une goutte de cette eau, que peuvent-ils faire pour vivre pendant un voyage où il y a tant d'ennemis à combattre? Il est clair qu'au mieux, ils mourront de soif. Car, nous le voulions ou non, mes filles, nous nous acheminons tous vers cette fontaine, mais par des moyens différents. Croyez-moi, et que nul ne vous induise en erreur en vous indiquant un autre chemin que celui de l'horizon.
Bien. Alors, vous voyez, j'aime bien cette expression. Hein. Que nous le voulions ou non, mes filles. Alors là, c'est même pas todas en espagnol, c'est todos. Donc c'est un masculin. Donc ça dépasse largement les sœurs de Saint Joseph. Hein. Donc elle donne aussi une loi qui renforce la parole de l'écriture de l'évangile selon Saint Jean auquel elle a recouru. Il y a beaucoup de demeures. Donc, tout ce que nous le voulions ou non, nous marchons vers cette source, bien que de différentes manières. Donc, Sainte Thérèse admet et promeut, si vous voulez, la diversité. Hein. La diversité des chemins qui sont dans cet unique chemin qu'est le Christ. Et de toutes ces sources qu'il y a dans cette source qu'est le Christ. Ce qui lui importe, et on va y revenir après, c'est de montrer que... l'oraison est un chemin, et c'est un chemin sans danger. Ça oui, c'est ça qui lui importe. Mais vous voyez, pour ces filles, elle le dit après, parce qu'elles ont entrepris le chemin de l'oraison, c'est leur vocation, donc il n'y a pas pour vous d'autre chemin. Vous voyez un petit peu comment il faut nuancer les choses, avec la littéralité du texte. Donc pour vous, croyez-moi, vous, que personne ne vous trompe en vous montrant un autre chemin que celui de l'oraison. C'est carmélite, d'accord ? Vocation. Appel. Ouais ? Clair. 2 heures par jour. Bon. Très clair. Bon. Mais tous, nous marchons vers cette source, bien que de différentes manières. Donc il y a place à une pluralité, à une diversité, une largeur de vue, vous voyez ça ? C'est quand même très très important, ça. Que nous le... Alors, comment c'est traduit ? Que nous le voulions ? Comment c'est ? Queramos que no ? Ah ?
nous le voulions ou non.
Oui, c'est pas bien traduit. Qu'est-ce que vous avez dans les autres traductions?
Bon gré, mal gré.
Ça, c'est quelle traduction?
C'est au
cerf, vous avez ça au cerf. C'est plutôt meilleur, ça. C'est facile. Bon gré, mal gré. Oui. Porque queramos que no. Vaille que vaille. Ce serait plutôt ce sens-là. Hein. Bon, c'est peut-être difficile pour les non-francophones de comprendre ça. Hein. Que nous le voulions ou non, non, ça n'a pas de sens en soi dans le contexte. Hein. Porque queramos que no, hijas mías, todos caminamos. Hein. Queramos que no, donc surtout dans cet espagnol classique de Thérèse, à ce sens, plutôt de oui, bon gré, mal gré, vaille que vaille, vaille que vaille. Vous avez d'autres traductions? Comment vous avez ça en anglais? Vous n'avez pas la traduction anglaise? Alors, Father? Chapitre 21, paragraphe 6, la deuxième partie. Ça peut être intéressant de voir ça en anglais. Comment? Comment c'est en anglais?
Whether
you like it or not. Donc, c'est la même chose que Marcel Ancret. Ça ne paraît pas très juste dans le contexte. Hein. Et en portugais, qu'est-ce que tu as?
C'est queramos, quer não.
Quer queramos, quer não.
Ouais,
bon. La même chose, quoi. Alors j'essaie de vous faire comprendre qu'en fait c'est pas que nous le voulions ou non, c'est plutôt dans le sens de ça va, ça vient, on vaille que vaille, on avance puis on recule, c'est plutôt dans ce sens-là hein, qu'il faut prendre ça. Oui.
Maybe it makes no difference.
It
doesn't make any difference, we are marching together.
Oui, peut-être, vous auriez raison. Je reconnais que c'est pas très facile à traduire, hein. C'est de l'espagnol ancien, donc c'est pas très facile. Hein. Mais vous voyez le contexte, c'est pas que nous le voulions ou non, que nous le voulions ou non, tous nous marchons, non. Ça n'a pas de sens. C'est dans un sens ou dans l'autre, c'est pour ça que je dis vaille que vaille en français, on fait ce qu'on peut. C'est un peu K1, K, on dirait en français, K1, K, une expression familiale. Enfin, K1, K, ça veut dire un peu en faisant des soubresauts, je ne sais pas comment vous dire, tout ça c'est compliqué hein, pour les non-francophones. Un peu en zigzag. Est-ce que ça... Non, vous ne comprenez pas plus. C'est plutôt en zigzag. Ça, comme ça, vous voyez, c'est ça. Hein?
Oui, comment c'est le corps qui saute.
Vous voyez, c'est plutôt ça. Hein? C'est plutôt ce sens-là, d'après le contexte, c'est dans l'espagnol classique. Vous voyez? C'est ça que j'essaie de vous faire percevoir.
Tantôt.
Oui, avec des hauts et des bas. C'est ça que j'aurais voulu dire, vous voyez, à votre place. Avec des hauts et des bas, c'est plutôt ça. Alors de notre psychologie ou d'autres choses, avec des hauts et des bas. Ce serait plutôt ce sens-là. Ça, c'est bien. Merci beaucoup, frère. Très bien. Ouais. Très bien. Ah, les moines, hein, qu'est-ce que vous voulez, hein, c'est ça. Entre moines et moniales, ils s'entendent. Hein. Bon, très bien. Alors, autre élément, évidemment, qui correspond à... C'est les destinataires premières du texte. Hein, c'est 21-10. Alors, jetons un petit coup d'œil. Bon, pour vous, il n'y a pas de problème, hein, n'ayez aucune crainte de rien, on vous dit non, surtout ne faites pas oraison, c'est condamné par l'Église, c'est patati, il y en a qui se sont perdus, etc. Hein. Donc, laissez tomber ces peurs, dit-elle. Hein. Alors, est-ce qu'on peut lire le paragraphe 10?
Donc, mes sœurs, défaites-vous de toutes ces frayeurs et, de même manière, ne faites aucun cas de l'opinion publique.
Dites-vous l'opinion publique, c'est comme ça que c'est traduit?
Oui.
Ah, c'est marrant.
C'est pas une traduction littérale, je sais.
Ben si, la opinion del vulgo, oui, c'est l'opinion publique actuelle, on dirait ça. Oui, c'est marrant, je crois que la traduction elle est quand même ancienne, de manière de sens à commencer ancien, c'est marrant. Vous avez autre chose dans les autres traductions? L'opinion du vulgaire, ça c'est Marcel Auclair, oui, elle a fait très classique. Et puis?
En anglais c'est crowd.
Comment?
Crowd.
Des foules, quoi. Des foules, oui, c'est ça, oui. L'opinion du vulgaire des foules. L'opinion publique, c'est tout à fait ça actuellement. Hein. Bon.
D'accord. Dites-vous bien que ce n'est pas le moment de croire tout le monde, mais seulement ceux dont la vie apparaît conforme à celle de Jésus-Christ. Efforcez-vous d'avoir une conscience pure, de l'humilité, du mépris pour toutes les choses de la terre, et un attachement inébranlable aux enseignements.
Non, ce n'est pas un attachement. Et croyez fermement. Ah oui, je suis désolé. Et croire fermement,
aux enseignements,
croire fermement ce que tient et croire fermement ce que tient la Sainte Mère Église, lo que tiene, ce que tient.
Et après cela, croyez fermement, c'est ça, hein?
Non, il n'y a pas de fermement. Croyez assurément, a buen seguro,
que vous êtes en bon chemin.
Oui.
Non, mais... Encore une fois, abandonnez les craintes là où il n'y a rien à craindre. Et si certains veulent vous en inspirer, découvrez-leur humblement le chemin que vous suivez. Dites-leur que votre règle...
Déclarez-leur, expliquez-leur avec humilité le chemin, point, pas que vous suivez. Le chemin.
Comment je reprends, moi ? Que vous suivez, dites-leur que votre
règle... Que vous suivez le chemin, point. Dites-leur.
Que votre règle vous ordonne de prier sans cesse.
Oui.
Car c'est bien ce qu'elle vous prescrit et que vous êtes obligé de l'observer.
Voilà, donc la règle primitive du Carmel, que Saint Thérèse a retrouvée, demande au chapitre 13 de méditer jour et nuit la loi du Seigneur, à moins d'être occupé à une occupation légitime. Donc elle invite à une meditatio, lectio, continuelle, de la loi du Seigneur.
S'ils vous répondent qu'il s'agit de prier vocalement, insistez pour savoir si votre cœur et votre esprit doivent être attentifs aux paroles que vous prononcez. S'ils vous disent que oui, et ils ne pourront vous dire autre chose, vous saurez que, de leur propre aveu, vous devez nécessairement faire l'oraison mentale, sans exclure même la contemplation, si Dieu vous l'accorde alors.
Bon, on y reviendra là-dessus. Donc, vous voyez, c'est les querelles, les problématiques du temps. Et donc, les frayeurs, les terreurs, la pression exercée sur ceux qui vivent la prière mentale, l'oraison. Bien. Donc, la règle nous demande de prier sans cesse, donc il faut prier. Ça va ? C'est clair. Donc, voilà, il faut prier, et on va parler de la prière. Le projet se réalise. Ça va ? Bon. Deuxième point. Alors, vous voyez... Elle est subtile, elle dit, ils vous disent qu'il faut prier, vocalement. Alors vous leur dites, est-ce qu'on peut prier aussi en pensant à ce qu'on dit ? C'est ça la prière mentale. Et à qui on parle ? C'est ça la prière mentale. Ils sont obligés de vous dire que oui, parce que sinon ça n'a aucun sens de prier comme ça. Donc, ils sont obligés de concéder que vous pouvez prier mentalement. C'est ça. Bon, c'est une logique imparable. C'est assez sympathique de voir comment elle procède. Et voilà ce qui va s'ébaucher dans ces chapitres aussi. C'est que Sainte Thérèse va faire passer le chemin de l'intériorité, du recueillement, par la prière du Pater, du Notre Père. C'est la prière commune à tous les enfants de Dieu, catholiques et aussi les frères séparés, les luthériens, à toutes les générations de chrétiens. C'est la prière vocale reprise dans la liturgie de l'Église, dans la liturgie de l'Eucharistie et de l'Office. C'est aussi la prière des foules. C'est la prière enseignée par le Seigneur lui-même dans l'évangile de Saint Matthieu et de Saint Luc. Et il l'a prié lui-même avec ses disciples. Saint Thérèse à faire comprendre qu'il l'a prié lui-même avec nous. Et donc cette prière qu'il prie lui-même avec nous, pour Thérèse, dépasse toutes les querelles, toutes les problématiques, toutes les oppositions sur les formes et les méthodes de prière. Donc vous voyez un petit peu tout ce qu'elle entend, toutes les pressions qu'elle voit sur les sœurs, toutes les querelles, les problématiques, tout ça. Alors elle va résoudre tout ça autrement, par le haut, d'une autre manière, en commentant une prière vocale, puisqu'on l'a dit, et en montrant que pour bien la dire, eh bien il faut la prière mentale, l'oraison, et que cette prière bien dite et bien pensée est une disposition, et le Seigneur nous élève à la contemplation par cette prière et dans cette prière. Donc elle va dépasser toutes ces querelles, toutes ces oppositions sur les formes vocales, mentales, sur les méthodes de prière. La prière du Pater achève toute prière en même temps qu'elle vérifie toute la vie spirituelle et toute la vie chrétienne. Donc on va voir s'amorcer dans ces chapitres de manière parfois très brève, succincte ou très presque pas dissimulée, mais c'est imperceptible, ce dépassement, Et ça va être très intéressant parce que la moitié du chemin de la perfection est un commentaire du Pater. Ça va ? Tu veux pas te déplacer, toi, non ?
Non, ça va.
Non, ça va. Alors, nous allons voir cela. Hein, comment ça s'ébauche ? C'est tout à fait intéressant comment elle démarre là-dessus. C'est un grand bien de fonder notre prière sur les prières sorties de la bouche du Seigneur. 21.3, on va lire ce passage-là. Très bien. Vous voyez qu'on revient au chapitre 21. C'est un chapitre clé, hein. Mais un petit peu foutoir, un petit peu foutraque. Hein.
J'en dis autant, mais...
Alors, oui, pardon. Il faut prendre un tout petit peu avant, hein, en effet... bah tant pis, on va lire le 1 et le 2, ça fait rien, ça nous aidera pour la suite, excusez.
Ne soyez pas surprises, mes filles, des nombreuses choses qu'il faut observer pour entreprendre ce voyage divin, sur le chemin royal qui mène au ciel.
Non, c'est pour commencer ce voyage divin, qui est un chemin royal pour le ciel. Ce voyage divin, c'est celui de la prière. C'est un chemin royal pour le ciel. Hein? La prière est un voyage divin. Intéressant ça comme image aussi. Chemin, voyage, ce sont des expressions, des définitions très dynamiques de la prière. Ce n'est pas du tout statique pour Thérèse. Un voyage divin, dans la grâce, donc.
On gagne à le suivre. C'est ça. On gagne à le suivre un grand trésor.
Hein, gana, c'est on gagne, d'accord, hein. Je pense que vous êtes convaincus de ça. C'est-à-dire 10 midi à l'obélie, on gagne. Toujours on gagne. Bon.
Peu importe à notre avis qu'il en coûte beaucoup. Viendra le temps où on comprendra que tout cela n'est rien, tant le trésor a de prix.
Ah.
Maintenant, pour en revenir à ceux qui veulent suivre cette voie, sans trêve, jusqu'au but, qui est d'arriver à boire cette eau vive, je répète que les débuts sont très importants. Tout consiste en une ferme détermination, très déterminée, de ne point s'accorder de répit, jusqu'à ce qu'on y atteigne, coûte que coûte, advienne que pourra, travaille que travaillera, médise qui médira, à condition d'y arriver, même si on mourait en route ou si on manquait de courage devant les épreuves du chemin, même si le monde coulait. On nous dit souvent il y a des dangers. Une telle s'y est perdue, un autre s'est trompé, un autre qui priait beaucoup est tombé. La vertu en pâtira. Cela ne convient pas aux femmes qui sont sujettes aux illusions. Qu'elles filent la quenouille, cela vaudrait mieux. Elles n'ont pas besoin de ces délicatesses. Le pater et la ville, cela leur suffit.
Voilà. Donc voilà, ça va se nouer ici. Donc elle nous fait part de tout ce que dit l'opinion publique au sujet de l'oraison, de la femme orante, et du rapport entre oraison et vertu. D'accord ? Donc vous voyez, croquer sur le vif un certain nombre de citations de l'époque. Et je vous garantis, quand on lit un certain nombre de théologiens, on voit que ce n'est pas forcément l'opinion publique du bas peuple. Hein. C'est très souvent l'opinion des théologiens. D'accord ? Elles n'ont pas besoin de ces délicatesses. C'était entre autres l'opinion d'un théologien dominicain. Hein. Bon. Qui disait à un de ses amis, l'archevêque de Tolède, que c'était des histoires pour femmes de charpentiers. Mujeres de carpinteros, ces histoires de contemplation, d'oraison, c'était des histoires pour femmes de charpentiers. Et la bonne réponse de Thérèse, qui savait ça, c'est de dire qu'en effet, oui, le Pater Noster et l'Ave Maria suffisent, parce que, et de donner très souvent Marie comme modèle de prière, c'était la femme du charpentier. C'est très ironique, c'est très très bon comme histoire. Voilà. Donc vous voyez ce contexte, vous voyez toute la part de l'ironie qu'il y a dans ces expressions de Thérèse. Hein. Mais c'est vraiment, à dire, c'est un journal, quoi, un petit journal de tout cela. Hein. Alors, voilà. Eh bien, oui, moi je vous dis que, comment c'est traduit là ? Esto así lo digo yo, hermanos.
J'en dis autant,
mes sœurs. Vous voyez quel dialogue, oui, je suis tout à fait d'accord. En effet, que le Pater et l'Ave nous suffisent. Cela nous suffit bien.
Cela suffit et combien ? Vous faites toujours très bien de fonder votre oraison sur des prières dites par cette bouche qui fut celle du Seigneur. En cela, ils ont raison, car si notre faiblesse n'était aussi faible et si tiède notre dévotion, nous n'aurions besoin de nul autre procédé d'oraison ni d'autre livre. Il me semble donc maintenant, puisque, comme je l'ai dit, je parle à des âmes qui ne peuvent se recueillir sur d'autres mystères, elles croient que l'artifice est nécessaire et il est des génies si ingénieux que rien ne les satisfait. Je fonderai sur ces bases les principes, les moyens, les buts de l'oraison, sans pourtant m'arrêter au plus haut état. Et on n'aura pas de livre à vous retirer, car si vous êtes studieuse et humble, vous n'avez besoin de rien d'autre.
Donc on n'aura pas de livre à retirer, allusion moins que voilée, hein, donc à l'index des livres interdits hein, de l'inquisiteur 1559, hein, où donc avait été mis à l'index un certain nombre d'ouvrages sur l'oraison, sur la prière. Hein. Donc je pense donner quelques fondements. Il est bon de fonder notre prière sur la prière, les prières dites de cette bouche, qu'est celle du Seigneur. Donc elle va s'inscrire dans la prière du Seigneur. Hein? Alors je veux bien qu'on lise un tout petit peu le paragraphe 4, parce que je pense que ça peut un petit peu dissiper quelques doutes dans vos esprits au sujet du rapport de Thérèse à l'écriture. Lisons ça. Première ligne, première phrase.
J'ai toujours aimé les paroles de l'Évangile. Elles m'ont toujours mieux aidé à me recueillir que les livres très bien composés. En fait, si leur auteur n'était pas très approuvé, je n'avais pas envie de les lire.
Continue encore.
Blotti, donc, auprès du maître de la sagesse. Peut-être me suggéra-t-il quelques considérations capables de vous satisfaire.
Encore.
Je ne dis pas que j'expliquerai ces prières divines, je n'oserais pas. Il existe de nombreux écrits sur ce sujet. Et même s'il n'y en avait pas, ce serait de ma part de la sottise. Je ne vous donnerai que quelques considérations sur les paroles du Pater Noster. Car il semble parfois que l'abondance des livres nous fasse perdre la ferveur qui nous est si nécessaire, alors que le maître, en l'instruisant, s'affectionne à son élève. Il est heureux que son enseignement lui plaise et il aide beaucoup à l'apprendre. C'est ce que ce maître céleste fera pour nous.
Bien. Alors vous voyez, le lien de Thérèse, la référence de Thérèse à l'Évangile, à la parole, hein, plutôt qu'aux livres de dévotion et de spiritualité, fort nombreux et fort longs, hein. Ensuite, deuxième élément, c'est cette composition de lieu, si vous voulez. Thérèse se place à côté du maître. Elle n'a pas la prétention d'expliquer le pater, mais plutôt de recueillir de lui ce qu'il veut enseigner à ses disciples. Elle se laisse donc enseigner. Elle laisse donc le maître céleste enseigner ses sœurs. Voilà des axes pour entrer dans ce commentaire du Pater. C'est le Seigneur qui parle, qui instruit dans le secret ceux qui sont blottis auprès de lui, rassemblés auprès de lui, dans une attitude de disciple. Il s'agit donc pour nous d'apprendre le chemin de la prière du Seigneur lui-même, de sa bouche lui-même, dans ses paroles qu'il enseigne, et que lui-même explique. D'accord ? Le mot « expliquer » pour Thérèse, c'est « déclarer ». C'est le terme aussi qu'emploie Saint Jean de la Croix lorsqu'il commente les strophes. « Commenter », c'est ça que ça veut dire. « Commenter », tout simplement. Plus que « expliquer ». Bien. Voilà donc un certain nombre d'éléments hein, qui vont nous permettre de nous aventurer dans ce commentaire du Notre Père. Vous pouvez jeter un tout petit coup d'œil encore au début du chapitre 27, au titre, qui nous confirme là-dedans, où l'on traite, ou qui traite, du grand amour que le Seigneur nous a témoigné dans ses premiers mots du Notre Père. Le grand amour que le Seigneur nous a montré dans ses premiers mots. Donc, on est placé dans une relation d'amour, de communion avec le Seigneur, et c'est dans cette relation que les paroles du Notre Père sont expliquées. Enfin, vous avez, alors c'est beaucoup plus loin, c'est assez intéressant de voir cela, comment il y a une grande cohérence chez elle, même si les choses sont un peu disparate et disséminée dans l'ensemble. Donc allez jeter un petit coup d'œil au chapitre 37, qui est un commentaire du pardon des offenses, et comment elle est dans l'admiration, elle tombe dans l'admiration devant tout ce qu'elle a découvert, ou plutôt ce que le Seigneur lui a fait découvrir dans le pater et transmettre à ses sœurs. 37.1. De l'excellence du Pater Noster, et combien nous trouverons de beaucoup de manières la consolation dans cette prière. Vous voulez lire ce paragraphe 1, s'il vous plaît ?
Quelle sublimité de perfection dans cette prière évangélique ! Pourrons-nous ainsi en bénir le Seigneur ? Qu'elle porte bien le cachet de l'excellent maître qui l'a composé.
Voilà, tout ça c'est très sublime, là, c'est Marie du Saint-Sacrement, c'est clair. Les adjectifs sont très sublimes, hein, du début du 20e. Donc c'est une chose digne de louer beaucoup le Seigneur, hein, en voyant combien est élevée en perfection cette prière évangélique. De même qu'elle est ordonnée par un si bon maître. Et ainsi, mes filles, chacune de nous pourra l'apprendre. Comment c'est traduit pour vous, ça ?
Chacune de nous, mes filles, peut s'en servir à son gré.
À son gré, oui, ça peut être. D'accord. Alors, continuons.
J'admire vraiment comment, en si peu de paroles, toute la contemplation et toute la perfection se trouvent enfermées.
Dans cette prière. D'accord ? Donc le Notre Père, c'est le résumé de toute prière, de toute contemplation, de toute perfection. Contemplation, prière, perfection, sainteté, vertu, cohérence de vie. Vous voyez ? Donc elle va retrouver tout cela dans le Notre Père. Vous voyez comment elle tient toujours ce double axe.
Il semble que nous n'ayons pas besoin d'étudier d'autres livres que celui-là. Notre Seigneur, en effet, vient de nous enseigner toute la voie de l'oraison jusqu'à la contemplation la plus élevée, en commençant par l'oraison mentale et en passant par celle de quiétude et d'union.
Si j'ai... Alors, il y a une petite erreur, là. Ah. Depuis les commençants jusqu'à la prière mentale, donc là, ça a été un peu télescopé, jusqu'à l'oraison mentale et l'oraison de quiétude et d'union. C'est depuis les commençants jusqu'à l'oraison mentale. Ah, la ratio mentale. D'accord ? Hein ? Ça va ?
C'est quoi l'erreur ?
Eh bien, c'est qu'elle te dit, la sœur là qui traduit.
L'oraison mentale.
Ah oui, elle fait une énumération alors que
vous... Non, regarde, redis ta phrase.
Laquelle ? Notre Seigneur, en effet, vient de nous enseigner toute la voie de l'oraison jusqu'à la contemplation la plus élevée.
Oui.
En commençant par l'oraison mentale.
Non, c'est pas ça. C'est pas en commençant par l'oraison mentale, ah. C'est. Depuis les commençants, et ça ce sont les distinctions classiques depuis le Moyen-Âge, les commençants, les progressants et les parfaits, donc elle a l'emploi un substantif, tu comprends, c'est pas depuis les commencements. Ça va ?
Ouais.
Tu comprends ?
Ouais, ouais.
C'est depuis les commençants qui vont à, ou qui vont vers l'oraison mentale, parce que c'est davantage un stade, une étape, hein, l'oraison de quiétude et d'union, d'accord ? Bon, vous voyez, là, c'est un petit peu télescopé. Ouais. Bon.
Quel paragraphe ?
1.
37.
1.
37.
1. It's all right ? Alors, finis le paragraphe, s'il te plaît.
Si j'avais le talent d'écrire, je pourrais, sur un fondement si solide, établir tout un grand traité de l'horizon.
Elle l'a fait.
Eh oui.
Eh oui.
Ensuite.
Ah ben non, comment ça ? Il y a encore une phrase moi, dans mon paragraphe.
Non,
vous n'en avez plus. Bon, les paragraphes ne sont pas les mêmes. Ça ne fait rien. Tant pis. Ce n'est pas grave. Donc, voilà, il y a tout dans Notre Père. C'est donc le résumé, le compendium de toute prière chrétienne et de toute vie chrétienne. Ça va ? Eh bien, cette conviction. Et nous avons encore chapitre 42, paragraphe 5. On va enfoncer le clou. Donc on est au terme, hein, au terme du chemin de la perfection. Au terme du terme. Hein.
Et maintenant, admirez mes sœurs comment notre Seigneur m'a tiré d'embarras en nous enseignant à lui-même.
Non ! En vous enseignant à vous et à moi.
En nous enseignant lui-même à vous et à moi. Le chemin dont j'avais commencé à vous entretenir. Voyez comment il m'a fait comprendre les grandes choses que nous demandons en récitant cette prière évangélique. Qu'il en soit béni, qu'il en soit à jamais béni. Il est certain que jamais il ne m'était venu à l'esprit que le paternoster enfermait de si grands secrets. Vous venez de le voir, tout le chemin spirituel s'y trouve depuis le point de départ jusqu'à celui où l'âme se plonge en Dieu et s'abreuve à l'entrée à cette fontaine d'eau vive dont je vous disais qu'elle se trouvait au bout de la route.
Intéressant, hein? Donc Sainte Thérèse ne se relie pas, Sainte Thérèse ne fait pas un brouillon avec un plan soumis à un censeur, à un professeur. Non, elle ne se relie pas, mais il lui est donné par Dieu, par le Seigneur qui l'instruit, hein, de boucler la boucle et de répondre au projet et de découvrir avec admiration et surprise, dans la louange, que le Seigneur l'a instruite et l'a conduite. Ce n'est pas construit, mais c'est conduit. Eh oui. Eh oui. C'est ça chez les saints, souvent. Ce n'est pas construit, mais c'est conduit. Et donc, dans cette prière évangélique, il y a tout le chemin spirituel, c'est tout. Hein? Alors, vous voyez quelle réponse magistrale, hein? Donc, à ceux qui disent que l'oraison est dangereuse, la prière mentale est dangereuse, qu'il vaut mieux prier vocalement, que ça suffit, surtout pour les femmes. Comment elle retourne la question, la problématique, la querelle, la polémique. Précisément, donc, ça suffit, le chemin, le pater suffit, en effet, combien il suffit. Et dans ce pater, si nous le recevons du Seigneur en nous laissant instruire par lui, en nous disposant par l'oraison mentale, eh bien, nous sommes conduits à la source d'eau vive, la contemplation, nous plongeons en Dieu, hein, c'est tout ce vocabulaire, j'allais dire, aquatique, plongée, la source qui est donnée abondamment, la source d'eau vive, hein, qui est au bout du chemin. Donc, si vous voulez, ces espèces d'apories, de polémiques, de querelles sur les mots, mais aussi sur les réalités, hein, ces espèces d'interdits, de peur et tout ça, ça tombe. Vous voyez ? Et il y a vraiment du génie là-dedans. Elle a retourné complètement la situation. Hein. Et de fait, ce qui va s'imposer, ce sont les écrits de Thérèse par-dessus tout, c'est sûr. À cause de sa sainteté, c'est sûr. Hein. Et voilà. Hein. Alors, nous faisons la pause. Il est 37. Vous serez donc de retour à 47 précises.